Je propose de faire un résumé d'un message que nous avons entendu, Elisabeth et moi, début de l'été. Message de Danny Amo, auteur chrétien bien connu. C'est une réflexion sur la sanctification. Je propose donc de lire Éphésiens 4 et Éphésiens 5. On ne va pas faire la lecture totale, bien sûr, de tous ces versets. Et l'apôtre, avant d'aborder le sujet de la sanctification dans une vie pratique de tous les jours, commence au chapitre 4, verset 17, par nous rappeler d'où nous venons. Et c'est un triste tableau de l'être humain qui vit sans Dieu, livré à ses propres passions. Chapitre 4 d'Éphésiens, verset 17. Dans la nouvelle Bible Second, il y a un titre, « L'homme ancien et l'homme nouveau ». Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Parce que leur cœur est fermé, ou notre traduction refuse de comprendre. Et puis, ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. C'est un tableau effrayant, bien réaliste. Paul signale six caractéristiques de celui qui ne connaît pas Dieu. La première caractéristique, c'est qu'il marche dans la vanité de ses pensées, où il suit des pensées vides de sens. Ensuite, il a une intelligence obscurcie. Ensuite, il est étranger à la vie de Dieu. Il n'y a pas de communication avec Dieu. Mais s'il est étranger à la vie de Dieu, c'est à cause de l'ignorance qui est en lui, dit Paul. Il ignore la vérité. Mais de plus, il est étranger à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de son cœur, du refus de comprendre, comme si son cœur était de pierre. Et enfin, à cause d'un dérèglement moral. Et on peut penser au prophète Ésaïe, qui au chapitre 5 et au verset 20 a écrit il y a longtemps: quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal. Et mal ce qui est bien. Ils prétendent clair ce qui est obscur. Et obscur ce qui est clair. Ce qui est doux, ils font passer pour amer. Ce qui est amer pour quelque chose de doux. Et c'est, nous le constatons souvent. Et comme Philippe, tu l'as dit aussi au début, avant le début du moment de prière, lors de la cérémonie des jeux d'ouverture des JO, il y a eu des scènes un peu choquantes. Ce qui a même conduit donc des représentants de l'Église catholique en premier pour dénoncer, et je cite, l'outrance et la provocation de certaines scènes. Oui, quel malheur, comme dit Ésaïe, de voir des personnes qui déclarent bien ce qui est mal. Et Paul confirme, à la fin du verset 19, comme conclusion, que ce dérèglement moral conduit à commettre avec avidité, ou notre traduction, sans aucune retenue, toutes sortes d'impuretés. Alors on peut se demander, avec raison, est-ce que l'être humain peut-il changer? Est-ce possible pour nous d'agir sainement, dans la vérité et dans la lumière? Alors, Paul répond dans la suite du texte et va nous dire pourquoi le changement est possible et comment ce changement s'opère. Et puis, bien sûr, quelles conséquences pratiques, il y en a plusieurs dans Éphésiens 4 et 5. Le verset 20, Paul dit: « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, Alors je m'arrête, c'est assez intéressant de noter que la découverte de l'Évangile, eh bien ici c'est comme si c'était apprendre le Christ. Recevoir l'Évangile, c'est apprendre Christ. Je trouve cette notion intéressante. Verset 21. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit conformément à la vérité qui est en Jésus. Alors, c'est effectivement important d'apprendre le Christ parce que la vérité est en lui. Alors, versets 22 et 24, on va trouver trois mots-clés. Se défaire, ou se dépouiller, être renouvelé et puis revêtir. Verset 22. Paul dit, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée, ou d'avoir dépouillé le vieil homme. Ou une autre traduction, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Donc premièrement, il s'agit de se défaire. Verset 23. Il s'agit d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Et puis verset 24, le troisième verbe, il s'agit de revêtir l'homme nouveau. Et parole de vie traduit, il s'agit de comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Donc ces trois mots-clés, un dépouillement, un revêtement et puis un renouvellement. Alors dernier mot à proposer ces trois mots-clés, et qui, en disant que ces trois mots-clés constituaient la théologie du changement. Le changement est possible, et Paul utilise ces trois mots, dépouiller, renouveler, revêtir, pour expliquer qu'un homme, esclave du péché, puisse devenir un enfant de Dieu. Pour expliquer comment les Thessaloniciens avaient pu, au chapitre 1, verset 9, se tourner des idoles vers Dieu pour servir un Dieu vivant et vrai. Alors, dans ces trois verbes, trois mots-clés, on peut peut-être avoir en tête plusieurs images. En voici une, imaginons que l'on jardine et que l'on taille une haie, qu'on a dans les cheveux plein de débris végétaux, qu'on fait des plantations et qu'on en met les mains dans la terre et qu'il fait chaud, on transpire, on est tout sale, plein de terre et qu'à la fin de ce dur labeur, on est tout content, avec d'abord d'enlever les vêtements sales, de prendre une douche et de se revêtir d'habits propres. Et donc, pour se revêtir, il faut d'abord enlever les vêtements, se dépouiller. Et dernier mot, on fait un parallèle avec ce que dit Paul en Romains 6, quand Paul parle du baptême. Et Paul affirme qu'on est identifié à la mort de Christ, qu'on est identifié à la résurrection de Christ. Et Paul écrit, verset 4, « Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a ressuscité le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. » Pour qu'on puisse vivre d'une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec le passé. Je cite encore Daniel Amo qui disait que les temps en grec... Alors, j'aimerais bien... J'avais failli me téléphoner pour... Fotini, pour avoir plus de renseignements, utilisé pour le dépouillement et le revêtement, indique que c'est une action qui a eu lieu une fois pour toutes, hein, un temps aoriste pour les spécialistes. Alors, je suis mort au péché, identifié à la mort de Christ, mais c'est une fois pour toutes, c'est fait. Je suis identifié à la résurrection de Christ, mais c'est fait une fois pour toutes. Et si je suis identifié à la résurrection, c'est pour vivre une vie nouvelle. Donc Dieu m'équipe et m'a équipé pour une vie nouvelle et c'est fait une fois pour toutes. Le dépouillement et le revêtement, c'est fait. Par contre, le troisième mot-clé, le renouvellement, c'est un participe présent progressif qui est utilisé. C'est donc continu. Alors, au chapitre 5, verset 21, Paul montre que... Chapitre 4, plutôt. Oui, chapitre 4. Paul montre qu'étant dépouillé de notre ancienne nature, revêtu de la nouvelle nature, renouvelé par le Saint-Esprit, nous devons dire constamment non à la chair et oui à l'Esprit. Et c'est le chemin de la sanctification. Alors Paul va énoncer 9 exemples qu'on va essayer de voir, 9 domaines. On va dire non et on va dire oui. Et dans ces 9 domaines, Paul utilise à chaque fois une manière négative et puis une manière positive. Exemple, premier cas pratique, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer, non. Dire non, renoncer au mensonge. Parler la vérité, oui, il faut dire oui à la vérité. Chacun à son prochain. Donc, premier cas pratique, pour être renouvelé dans l'esprit de la vie nouvelle, tout simplement, dans le sein du couple, dans la famille, dans l'église, au travail, dans nos relations sociales, avec nos voisins, refuser le mensonge et dire la vérité. C'est tout simple, en fait. Et donc, la vie nouvelle va se manifester dans nos rapports avec les autres. Et dernier mot, préciser que Paul ajoute dans chaque exemple une raison, un motif théologique. Et ici, c'est « car nous sommes membres les uns des autres ». Dieu est le Dieu de la vérité, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de la vérité. On sait que Jésus est la vérité, comme on a lu la vérité même en lui. Et donc, un enfant de Dieu doit parler vrai. Que notre parole soit fiable, que notre parole soit crédible. Dans Éphésiens 4, verset 15, un verset qu'on n'a pas lu, c'est juste avant, Paul dit, disant la vérité avec amour. Nous grandirons en tout vers celui qui est la tête. Le Christ. Comme si dire la vérité avec amour nous faisait grandir jusqu'à ce modèle de Jésus-Christ. Deuxième domaine où la vie nouvelle se manifeste, il y en a au moins 9. Alors c'est entre les versets 26 et 27. Je ne lirai pas à chaque fois tous les versets. Il s'agit de la gestion de nos émotions. Dans ce domaine, la vie nouvelle doit se manifester. La colère de Dieu, c'est un peu comme l'envers de sa sainteté. C'est parce que Dieu, si Dieu n'était pas saint, mon péché ne ferait pas réagir à la colère de Dieu. Mais comme Dieu est saint, il y a une juste colère contre le péché, contre l'injustice, contre le mal. Et il y a des situations où les chrétiens devraient se mettre en colère. Mettez-vous en colère, ne péchez pas, dit Paul. Alors, il faut réagir vis-à-vis du mal, mais avec une colère maîtrisée. Et Paul donne un motif théologique, là aussi, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Alors, deuxième cas pratique, pour manifester cette vie nouvelle, dire non à une colère exagérée. Oui, à une colère maîtrisée. Troisième domaine, verset 28, où la vie nouvelle va avoir des conséquences. Eh bien, c'est non au vol et oui à l'honnêteté. C'est très pratique, hein ? Que le voleur ne vole plus, verset 28. Qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains. Et là, le motif théologique, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La puissance de l'Évangile a la possibilité, à la capacité de transformer un voleur en un bienfaiteur qui va donner ses biens à celui qui est dans le besoin. Quatrième domaine où la vie nouvelle se manifeste, c'est entre les versets 29-30. Et là, c'est peut-être difficile, là, en pratique pour nous, la manière dont on utilise notre langue. Alors, la vie nouvelle, en nous, dans ce domaine, va nous dire non, Pierre-Yves, aux paroles blessantes, mais oui, aux paroles édifiantes. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Et ce verset que j'aime beaucoup, je cite assez souvent dans les camps, mais une bonne parole, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Paul ajoute un motif théologique, verset 30, n'attristez pas, pour ne pas attrister l'Esprit Saint de Dieu. On cite souvent ce verset qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu, mais en fait, c'est dit dans un contexte de la langue, des paroles. Salomon a dit en Proverbe 18 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir, mais incroyable! La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors que cette vie nouvelle puisse agir dans notre langage, nos paroles, pour communiquer la grâce, communiquer la vie selon le besoin à celui qui m'entend. Je peux communiquer la vie. On va dire non aux paroles blessantes, aux paroles qui peuvent donner la mort, mais oui à la parole qui peut construire, qui peut édifier, qui communique la grâce. En tant que parent d'enfant, dans les camps familles, je le dis chaque fois, que ce verset est très instructif pour des parents. Une parole propre à édifier, c'est-à-dire à construire l'enfant, à le faire grandir, selon le besoin. Oui, c'est selon les enfants, selon l'âge de l'enfant, selon les circonstances. Et une parole qui communique quoi ? Communique la grâce. Parce que dans l'éducation des enfants, c'est fondamental de communiquer la grâce. Cinquième domaine où la vie nouvelle devrait se manifester. Alors c'est à partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre et puis les deux premiers versets du chapitre 5. On va dire, là aussi c'est peut-être difficile en pratique, mais non à la rancune, non à l'amertume, non à la méchanceté, non à la vengeance. Mais on va dire oui à quoi ? Au pardon. Verset 31. Puis là, il y a toute une liste, on a l'impression que ça va même crescendo, que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure soit ôtée dans la version d'Arabie, du milieu de vous. De même que toute malice. Mais soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres. Ah, puis il y a un motif théologique aussi. Comme Dieu nous a en Christ pardonné. Et puis les premiers versets du chapitre 5, c'est aussi comme Dieu nous pardonne, comme Jésus nous pardonne. Il semble que le terme traduit par ôter dans Darby, j'ai pris cette version parce que c'est assez significatif, ôter du milieu de nous, c'est comme un acte chirurgical. C'est comme c'est vrai, si on enlevait l'appendicite, on enlève quoi. Il faut que le mal soit éradiqué à la racine. Le sixième domaine où la vie nouvelle se manifeste, c'est au chapitre 5, les versets 3 à 7. On pourrait résumer non à une sexualité débridée. On pourrait aussi dire non à un humour déplacé. Mais par contre, oui, un amour, mais vrai. verset 3 du chapitre 5, que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ne soit même pas mentionnée parmi vous. Verset 4, pas de choses choquantes, de propos voilà, extravagants, de bouffonneries, cela est malséant. Ça, c'est dans la version NBS, je crois. Mais plutôt des actions de grâce. Et le motif théologique, je ne lis pas tout, hein, c'est au verset 5, il est dit « car hein. ». Chaque fois, il y a souvent un « car » au cours. Voilà. Le motif théologique, c'est « car », c'est pour avoir un héritage dans le royaume de Dieu. Donc ces versets sont suffisamment clairs, je ne vais pas détailler, mais juste en non à une sexualité débridée, non à un humour déplacé. Souvent les hommes plaisantent sur ce sujet, et vraiment, il faut s'en garder. Mais oui à l'amour vrai. Septième domaine où la vie nouvelle se manifeste, c'est verset 8 au verset 14. On pourrait résumer non aux œuvres des ténèbres, mais oui à la lumière. Verset 8, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Appelez-là, il y a le motif théologique, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et verset 11, ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Huitième domaine où la vie nouvelle s'est manifestée, entre les versets 15 et verset 17. On pourrait dire non à la folie humaine, mais oui à la sagesse divine. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Et puis là, il va y avoir le motif théologique, verset 16, racheter le temps, où il est dit, dans d'autres versions, saisissez toutes les occasions. Car les jours sont mauvais. Alors, saisir toutes les occasions. C'est vrai que peut-être que si on saisit toutes les occasions, c'est formidable, mais on risque d'être surbooké aussi. Donc là aussi, il faut sans doute de la sagesse. Alors quelqu'un a écrit à propos de cela, je pense que ça c'est juste. C'est moi qui l'ajoute, saisissons toutes les occasions, mais sachons parfois dire non à une opportunité. Alors quelqu'un a écrit, une personne a écrit justement, savoir dire non à une opportunité pour pouvoir dire oui à une priorité demande une grande maturité. C'est vrai qu'il faut une grande maturité pour savoir des fois dire non pour privilégier une priorité. Je pense que c'est assez juste cette idée. Un neuvième domaine où la vie nouvelle se manifeste. Alors ça peut peut-être surprendre. On va dire non à l'ivresse alcoolique et on va dire oui à l'Esprit Saint, à la plénitude de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Alors, le motif théologique, parce que le vin mène à la débauche, et puis par contre, dans les versets suivants, 19 à 21, on voit que la plénitude de l'Esprit va conduire par contre à d'autres conséquences, mais bien sûr, beaucoup plus lumineuses. Alors, ce sujet de la plénitude de l'Esprit est introduit dans un contexte vraiment très terre à terre, qui est l'excès d'alcool. C'est bizarre, hein, c'est étonnant quand même. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui ont évoqué ça dans des écrits, des auteurs ont parlé de ces versets. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a des comparaisons entre l'excès d'alcool et puis la plénitude de l'Esprit ? Alors, bien sûr, il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Alors, parmi les similitudes, c'est qu'on pourrait dire, les deux font chanter, mais peut-être différemment. En tout cas, dans les deux cas, la marche est affectée par l'alcool ou comme par l'esprit. On est sous une influence d'une puissance extérieure, puissance de l'alcool ou puissance de l'esprit. D'ailleurs, les alcools sont appelés des fois spiritueux. La ferveur caractérise aussi les deux cas. À la Pentecôte, lors du baptême du Saint-Esprit, des spectateurs qui étaient là, ils vont dire, mais attends, mais ils ont bu du vin. Ils sont pleins de vin doux, je crois, quelque chose comme ça. Un acte 2. Alors évidemment, il y a des grandes différences. L'alcool conduit à la débauche, l'esprit à la pureté. L'alcool fait perdre le contrôle de soi, et tandis que la maîtrise de soi est quand même un fruit de l'esprit. L'alcool permet de fuir le quotidien, de s'échapper, de penser à autre chose, alors que le Saint-Esprit inscrit notre action dans le quotidien. Il nous ramène à une vraie réalité. Et ce parallèle d'ailleurs entre vin et esprit montre que la vie par l'esprit n'a rien de magique ou comment dire de mystique, mais que la vie par l'esprit s'incarne vraiment dans tout ce qui est vraiment concret. Par exemple, dire oui à la vérité, non au mensonge. Par exemple, dire non à une sexualité débridée et dire oui à l'amour vrai. Et ensuite, les versets 19 à 21 du chapitre 5 évoquent les conséquences de la plénitude de l'esprit, alors, dans un enfant de Dieu. Alors, je trouve que c'est intéressant, donc on va lire versets 19 à 21, où il y a quatre conséquences, peut-être, de la plénitude de l'esprit. Alors là, je lis dans Parole de vie, c'est « Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. » Donc, auprès, les linguistes, j'ai vu, qui disent que, d'après, il semble que c'est plutôt la louange communautaire. Et puis, juste ce qui suit après, une louange personnelle. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Et puis, verset 20, remerciez Dieu, le Père, toujours et pour tout. Et puis, verset 21, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, ces quatre conséquences, une louange communautaire, l'action de l'Esprit va nous donner de l'envie, peut-être, de venir au culte et de retrouver nos frères et sœurs pour pouvoir chanter ensemble. Et puis, une louange personnelle, ou même en marchant, en faisant des randonnées, ou peut-être en travaillant, ou peut-être en se couchant, on aura peut-être à cœur de remercier Dieu et de le bénir. Et de le louer. Et puis, verset 20, l'Esprit Saint va sans doute nous donner, former notre cœur à la reconnaissance, à dire merci à Dieu et avoir voilà, tout ce que Dieu nous a accordé dans la journée. On rend grâce à Dieu. On dit oui à la vie avec l'Esprit. Et on dit oui à la reconnaissance de tous les bienfaits de Dieu. Et puis au verset 21, l'Esprit va me conduire à la soumission. Une soumission mutuelle. C'est-à-dire l'Esprit va me conduire à avoir adopter une juste place dans mon rapport à autrui. Pour l'action de l'Esprit en nous, ces verbes, entre versets 19 à 21, sont en fait en participe présent, et la version d'Arby, qui est assez plus littérale, traduit effectivement comme ça, « Chantant, psalmodiant, vous entretenant, rendant grâce, étant soumis. » La plénitude de l'esprit va donc me conduire à quatre choses, à la louange communautaire, louange personnelle, exprimer ma reconnaissance et à la soumission. Lorsque l'esprit m'habite, je vais trouver ma juste place dans mes rapports à autrui. Et alors là, je vais bientôt m'arrêter, mais on voit au verset 22 que la femme trouve sa place. Au verset 25, le mari trouve sa place. Au chapitre 6, verset 1, ce sont les enfants qui trouvent leur place. Au chapitre 6, verset 4, ce sont les pères qui seront à leur place. Et puis dans la sphère professionnelle, au verset 5, les employés pourront respecter leur employeur. Et au verset 9, ce sont les patrons qui vont respecter leurs employés. Je vais m'arrêter et à titre de conclusion, je pourrais m'adresser une question, mais chacun peut se questionner. Est-ce que dans ma vie, y a-t-il des traces récurrentes de mon ancienne vie charnelle, façon de vivre? Alors on peut citer par rapport aux 9 domaines pratiques envisagés par l'apôtre, les 9 domaines qu'on a balayés rapidement. Est-ce que régulièrement, ces dernières semaines, dans ma vie, je suis plutôt en train d'accepter le mensonge ou la vérité? Est-ce que du colère excessive ou la colère juste? Est-ce que par rapport à la malhonnêteté, j'ai des choses à me reprocher? Ou au contraire, j'ai fait part de mes biens? Par rapport à mes paroles, quelles sont-elles globalement? Blessantes ou édifiantes? Est-ce qu'il y a des pensées d'adultère dans mon cœur ou des pensées d'un amour vrai? Est-ce que je fais des œuvres stériles de l'obscurité? Au contraire, je manifeste le fruit de la lumière qui est la bonté, la justice et la vérité. Est-ce que j'ai un comportement qui est un peu fou ou au contraire plutôt sage? Est-ce que j'ai supporté sous l'alcool ou plutôt sur me laisser remplir par l'esprit? Je m'arrête sur ces questions.